C'est le temps de vous présenter notre chronique culturelle et on reçoit en studio Rouka Idrissa Abdoulaye, qui est agente de développement en immigration ici à la MRC des Sources. Allô, Rouka.
Allô, Martin.
On parle de la situation des femmes à travers, autour du monde.
Oui, tout à fait. Écoute, la semaine dernière, c'était la Journée internationale des droits de la femme. Fait que je pouvais tellement pas faire l'impasse à ce sujet, sur ce sujet-là plutôt. Fait que je voulais vraiment parler de la situation des femmes autour du monde pour cette chronique-ci. Parce que, écoute, on est en 2020, puis on se dit, il faut encore parler de ça. Oui, on va en parler, puis ça va être pour les prochaines années. On va encore en parler de ces droits des femmes. Parce que, disons-le, bien avant la promulgation de cette date comme étant celle de la Journée internationale des droits de la femme par les Nations unies en 1977, elles luttaient déjà pour leurs droits, ces femmes-là. C'est quand même important. Parce qu'on se dit, la moitié de la population mondiale doit lutter fort pour faire respecter ses droits à l'autre moitié. Fait que c'est pour ça que ça a l'air irréaliste ou surréaliste, même si on veut. Mais quand même, on va le dire, avec le temps, il y a des victoires qui ont été bien heureusement obtenues, mais il reste encore bien du chemin à faire sur la route de l'égalité, c'est certain. En effet, à l'heure actuelle, les femmes sont encore, et ça trop souvent, les victimes des inégalités. Et ça, dans les quatre coins du monde. Elles paient doublement le prix des conflits, parce que souvent, c'est elles qui sont prises en otage, le viol étant considéré comme une arme de guerre.
C'est vrai.
C'est vraiment atroce d'imaginer d'utiliser un être humain comme arme de guerre en disant ben, « je vais la violer comme ça ». C'est comme si je déshonorais puis je ne respectais pas l'autre peuple contre lequel je me bats. Fait que c'est de penser à ça. On peut également parler des 200 millions de femmes victimes de mutilations sexuelles. Et là, je prends une petite parenthèse, juste, tu sais, on ne sait jamais pour expliquer c'est quoi en fait ça, c'est mutilation sexuelle. Parce que quand on ne sait pas nécessairement, on ne le vit pas dans des pays, on n'est pas dans des pays en Occident qui le font. Une mutilation sexuelle, c'est toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiqués. Et c'est là qu'est la différence, qui sont pratiqués vraiment pour des raisons absolument non médicales.
Oui, donc, c'est vrai.
On est loin de « c'est important, il faut le faire, c'est pour te sauver, c'est pour ta vie », tout ça. Non, on le fait vraiment pour des raisons non médicales, donc pour des raisons socioculturelles.
Et pas toujours dans des conditions adéquates non plus.
Exactement, clairement. Rarement, parce que souvent, c'est des gens qui sont dans des villages, dans des endroits vraiment reculés qui font encore ça. Donc, avec toutes les conséquences néfastes qu'on connaît sur la vie et le corps de ces femmes-là. Je pourrais quasiment faire toute une chronique à ce sujet.
Ouais.
Donc, cette pratique est faite, comme je disais, pour des raisons socioculturelles, mais elle est plus commune dans des parties du globe comme l'Ouest, l'Est et le Nord-Est de l'Afrique, dans certains pays d'Asie aussi, et au Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment là où ça se concentre le plus. Mais aussi, on remarque ça chez les personnes originaires de ces régions. Donc, même si ces migrants, ces personnes quittent leur pays d'origine où ces mutilations sexuelles sont pratiquées, puis s'en vont dans d'autres pays, elles vont continuer à les pratiquer. C'est là où le bas blesse, puis c'est pour ça que c'est un problème mondial qu'il ne faut surtout pas négliger, parce qu'elles continuent de les pratiquer, comme tu disais tantôt. Elles ne vont pas aller à l'hôpital pour faire ça.
Non,
mais
je ne pense pas que ça passerait.
Exactement, fait qu'elles le font justement chez elles, ces personnes-là, dans des conditions pas vraiment super intéressantes pour la santé. Ce qui fait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prend de grands moyens pour contrer cette pratique choquante en collaboration avec l'UNICEF, qui est le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, et le FUNIAP, qui lui est le Fonds des Nations Unies pour la population. Donc ces trois entités-là se mettent ensemble pour contrer vraiment, parce que on n'y pense pas trop, mais c'est vraiment un problème qui est présent. C'est sûr, des avancées ont été remarquées déjà depuis quelques années, parce que les pays où ces mutilations se pratiquent font de plus en plus d'efforts pour contrer ça. Mais comme je disais, même s'il y a une loi qui est passée, qui dit que c'est interdit, tu fais ça, tu vas en prison, tu vas payer une amende, quand c'est des gens qui le font, qui sont vraiment dans des mini-villages, des hameaux reculés, soit ils ne sont pas au courant de cette loi, soit ils se disent « bon, qui va venir me chercher dans mon village, je vais continuer à la faire ». Puis c'est important, c'est socioculturel. Les trucs socioculturels souvent sont très dogmatiques, quasiment comme la religion.
Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Souvent, il y a un lien entre les deux.
Et tout à fait, tout à fait. parlons aussi des quelques 700 millions de femmes qui ont été mariées alors qu'elles étaient mineures. Le mariage forcé, ça aussi, ça découle de toutes ces socioculturelles. Ah, c'est le fils de mon ami d'enfance. On veut que les familles soient encore plus unies. Fait que tu vas épouser son fils. pour toutes sortes de raisons, mais beaucoup sociales et culturelles, que ces jeunes filles sont mariées de force, comme j'appelle, quasiment du cartable d'école au lit conjugal. En reprenant le titre d'un article que j'ai lu sur le sujet, on lit ce genre d'article ou de témoignages de jeunes filles qui ont été obligées de se marier jeunes, puis on a quasiment la larme à l'œil parce que c'est vraiment, on hypothèque leur vie. Je prends aussi un autre côté du monde. Au Nicaragua, les femmes et les hommes, j'insiste, se mobilisent pour le droit à l'avortement. Parce qu'il faut le savoir, dans ce pays, le taux d'adolescentes enceintes est le plus élevé de l'Amérique latine. C'est incroyable. Et l'avortement, même en cas de viol ou de danger mortel pour la mère, est redevenu illégal en 2006.
C'est comme un recul.
Clairement un gros recul. Il y a quelques illuminés qui ont fait un tollé, puis on dit non, c'est interdit, tout ça. Ce qui a pour conséquence, effectivement, quasi inévitable, les avortements faits de manière illégale. La jeune fille, elle tombe enceinte, je ne veux pas, mais je ne peux pas aller à l'hôpital parce que c'est interdit. Ben, je vais quand même avorter. Puis c'est dans des conditions qui ne sont pas non plus intéressantes pour la santé, dans la salubrité douteuse qui met en hausse en danger la vie de ces jeunes filles concernées. Sur le plan politique, parce que je vais toucher un petit peu vraiment un peu partout, parce qu'il ne faut surtout pas faire l'impasse là-dessus, le plan politique, les femmes et la politique, ça fait longtemps qu'on en parle. La marge de progression pour l'égalité est encore très grande. En effet, la participation des femmes ne permet pas vraiment de faire valoir leurs droits. Elles ne sont que peu, voire pas du tout représentées dans les parlements nationaux. Imagine, en 2020... J'insiste, on dirait que je dis 2020, on est vraiment ailleurs. Là, c'est une nouvelle décennie qu'on commence. Ce n'est même pas un parlementaire national sur quatre qui est une femme, selon l'UIP, qui est l'Union interplanétaire. Ça aussi, je vais l'expliquer rapidement parce qu'on n'entend pas souvent parler de l'UIP. En fait, c'est l'Organisation mondiale des parlements des États souverains qui a été créée en 1889. 1889, c'est loin dans le temps, ce qui fait d'elle, effectivement, avec plus d'un siècle d'existence, la plus ancienne des institutions internationales à caractère politique. Donc, c'est vraiment l'UIP qui nous donne cette information-là. Et selon l'ONU Femmes, parce que l'ONU a une branche, qui est une entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, donc communément appelée ONU Femmes. Donc selon cette entité, les femmes gagnent moins que les hommes. Ça, je pense que ce n'est pas un scoop pour personne.
Non, c'est vrai.
Et sont plus susceptibles d'occuper des emplois peu qualifiés, d'où le fait justement qu'elles gagnent moins. Un tiers des femmes subissent des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Un tiers des femmes, c'est extraordinairement élevé. Chaque jour dans le monde, 800 femmes meurent pendant leur accouchement à cause des inégalités en matière de droits reproductifs et d'accès aux soins de la santé. Donc, c'est vraiment des chiffres qu'on a l'impression tellement qu'on nous jette à la figure, mais on se dit ces chiffres-là, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 800 femmes qui meurent dans le monde pendant l'accouchement juste parce que les soins de santé ne sont pas disponibles pour elles.
C'est terrible.
C'est vraiment terrible.
Oui.
Pour rester chez nous, au Canada, parce qu'on va quand même en parler de ce qui se passe ici, pensons aux violences faites aux femmes autochtones. On a parlé de Val-d'Or, qui a provoqué un énorme tollé et une indignation générale. C'est incroyable. Et aussi, toute l'histoire reliée aussi aux femmes autochtones disparues et assassinées aussi.
C'est vrai.
On parle, mais que j'ai... En tout cas,
qu'on ne règle rien.
Qu'on ne règle rien. Effectivement, ça continue encore. Plus rapidement, avant de terminer cette chronique, j'aimerais juste parler en rafale, comme ça, de 8 facettes de la situation des femmes dans le monde au cours des dernières années. Donc, je vais vraiment partir un peu partout sur la planète. En Arabie Saoudite, commençant par l'Arabie Saoudite. Les femmes peuvent voter et se porter candidate à des élections pour la première fois en 2015.
Imagine.
Donc, 2015, là, c'est il y a juste 5 ans. C'est très récent. Ça, c'est une avancée. Elles ne peuvent toujours pas... Ben, elles peuvent conduire, mais sous certaines conditions. Et il faut qu'il y ait un membre de la famille masculin qui est présent, que ce soit leur mari, leur frère, neveu, en tout cas quelqu'un, un membre masculin qui est là pour gérer leur action. Mais au moins, elles peuvent voter. C'est déjà une petite avancée. Elles peuvent conduire. Parlons aussi du mouvement féminin. On a souvent fait couler beaucoup d'encre. Qui est né en Ukraine il y a plus de 10 années, en 2009. Un mouvement de protestation des femmes qui a vraiment considérablement marqué l'imaginaire, comme on le disait, par le fait que les membres des féminines militent seins nus.
Oui.
Parce que pour elles, c'est une manière de revendiquer un féminisme qu'elle même appelle un féminisme radical, qu'elle qualifie d'ailleurs de sextrémisme. Rapidement, une petite définition rapide de ce terme-là, qui est en fait l'utilisation de façon extrême du corps de la femme et de son image pour faire avancer les combats des féministes. Pour elles, leur corps est un est une arme qu'elles peuvent utiliser,
le
fait qu'elles manifestent un sein nu. Donc les femmes, comme on les appelle de manière commune, embrassent des causes comme l'exploitation sexuelle des femmes, mais aussi des causes plus larges comme l'influence de la religion dans la société. Parce que souvent, on le sait, la religion, souvent les interdictions de la religion ou les devoirs, parce que oui, il y a des droits, mais il y a beaucoup de devoirs aussi, touchent beaucoup plus les femmes que les hommes, on s'entend.
C'est
pour ça qu'elles luttent aussi là-dessus. En Afghanistan, ça, je trouve ça génial. Il y a des hommes qui ont porté la burqa et ont marché dans les rues de Kaboul, qui est la capitale afghane, pour manifester leur soutien envers les femmes. J'ai vu la photo, là, c'était vraiment, c'est vraiment extraordinaire. En République dominicaine, le gouvernement a dépénalisé l'avortement dans certaines circonstances. Donc, si plusieurs femmes se sont réjouies de ça, bien évidemment, on peut imaginer les chefs religieux, les églises catholiques et évangéliques ont critiquer la position du gouvernement. On connaît tous la position de l'Église par rapport à l'avortement, bien évidemment. Au Pakistan, on se rappelle tous de cette jeune fille Malala Yousafzai, cette jeune femme qui a lutté au péril de sa vie contre les talibans, entre autres, pour la scolarisation des jeunes filles dans son coin de pays, parce qu'elle a, elle a été victime d'une tentative d'assassinat. Elle a obtenu d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 2017, à l'âge de 14 ans, je pense, ce qui faisait d'elle la plus jeune récipiendaire de ce prix-là. En Allemagne, la chancelière, moi j'adore cette femme, Angela Merkel, qui est souvent considérée comme la femme la plus puissante du monde, qui est l'une de ces femmes, si ce n'est le porte-étendard d'ailleurs de ces femmes-là puissantes, qui se démarquent de plus en plus dans certains postes traditionnellement occupés par des hommes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, de puissance et tout, du point de vue économique, selon le classement du magazine américain Forbes, le nombre de femmes milliardaires est passé de 187 il y a 5 ans. En 2015, à 244 en 2019. Bon, c'est sûr que c'est sur 2153 milliardaires au monde. Mais gardons le positif. Ça a quand même augmenté. Ça augmente. Fait qu'on se dit à un moment donné, peut-être ça va arriver plus haut que ça.
Souhaitons-le.
Au Québec, chez nous, on le sait aussi, je ramène ça, je tape sur le clou. À compétences égales, les femmes qui travaillent dans le secteur privé sont moins bien rémunérées que les hommes, selon l'Institut statistique du Québec. En outre, en plus de ça, selon une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, les initiatives du gouvernement du Québec pour relancer l'économie favoriseraient d'abord les hommes. Tandis que les mesures d'austérité toucheraient surtout les femmes. Ça, on pense que les femmes travaillent surtout dans des domaines plus sociaux. Et c'est là qu'il y a eu le plus de coupures. Puis on veut injecter l'argent dans l'économie, donc tout ce qui est entreprise, industrie, tout ça. Puis majoritairement, ce sont les hommes qui sont là. D'où le fait qu'on se dit que ça favorise plus les hommes, puis c'est les femmes qui vraiment comme subissent les conséquences de l'austérité. Au Brésil, pour terminer, petite anecdote, peut-être symptôme d'un stéréotype, dans le cadre de la Coupe du Monde de soccer, en juin 2014, une commentatrice brésilienne, puis là, moi, j'ai vraiment vu la photo, c'était quelque chose, une commentatrice brésilienne a dû enlever ses souliers à talons hauts pour ne pas être plus grande que son collègue.
Écoute,
elle ne peut pas être plus grande. Ça ne se fait pas. C'est incroyable. Fait que ça nous donne quand même l'idée que oui, il y a des avancées. C'est bien, on va le reconnaître, c'est important, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et surtout, on sait, le monde, c'est un éventail de traditions, de cultures, de civilisations différentes. La manière de voir la place de la femme est tellement différente d'une place à l'autre qu'on n'aura pas le choix de quand même continuer à en parler, puis de se dire un jour peut-être, la fin du monde, on atteindra l'égalité.
C'est pas de la fiction, hein, c'est des vrais cas qui ont été abordés.
Absolument. Non, il n'y a rien de fictif là-dedans, il n'y a rien qui a été inventé. C'est de vrais cas qui ont été documentés, qui ont existé. Donc c'est important d'en parler vraiment.
On va continuer d'en parler et on ne cessera pas. Merci beaucoup, Rouka, d'être passé nous voir. Pour réentendre l'entrevue, vous visitez notre site internet cgan.media et vous allez dans la section « Entrevues ».